France Info.
Bonsoir à tous. Il va vite, Emmanuel Macron, très vite, presque aussi vite que le TGV à bord duquel il avait pris place hier et qui relie désormais, vous le savez, Paris à Rennes en 1h25. Il va vite. Mais va-t-il trop vite? Et en fait-il trop? À peine rentré de Bamako, il sera demain à Versailles pour s'exprimer devant le Congrès. Et voilà que ressurgit ce mot valise qu'Emmanuel Macron avait pourtant promis de faire oublier. Hyper-président. Pour parler de cette omniprésidence peut-être naissante, nous sommes ce soir avec François Hernenven. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à La Croix, Laurent Guèze. Bonsoir.
Bonsoir Simon.
Directeur de la rédaction du Parisien Magazine, Alexandre Devecchio.
Bonsoir. Bonsoir.
Journaliste au Figaro, responsable du Figaro Vox. Et Alix Bouillaguet. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef de l'émission politique sur France 2. Bienvenue dans Les Informés. À vouloir faire tout le contraire de François Hollande, Emmanuel Macron fait-il du Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État accusé en son temps de vouloir tout faire, tout maîtriser, tout contrôler? C'est même au roi soleil qu'est désormais comparé son successeur avant cette prise de parole. Donc demain, devant les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles, mais lui se voit plutôt en président américain avec cette sorte de discours de l'État de l'Union à la sauce française. Au risque de saper, on va en parler, l'autorité de son Premier ministre. Est-ce que c'est le retour, Alix Bouillaguet, de l'hyper-président?
C'est en quelque sorte le retour, oui, de l'hyper-président à la sauce Nicolas Sarkozy de 2007. Hein. Effectivement, entre les deux hommes, il y a pas mal de points en commun. Même si officiellement, Emmanuel Macron veut s'inscrire en rupture totale avec, on va dire, le tempérament de Nicolas Sarkozy. On retrouve l'énergie, la transgression, la rupture. Il utilise les armes mises en place, entre guillemets, par Nicolas Sarkozy, notamment la création de ce congrès qui a été donc voulu, souhaité, installé par Nicolas Sarkozy. Il y a aussi la marginalisation du Premier ministre, on s'en souvient, François Fillon le collaborateur, donc là aussi c'est des petits marqueurs en commun, et puis il y a aussi l'ouverture dans la confection, on va dire, du gouvernement, de cette volonté de transgresser et de jouer des cartes un petit peu dissonantes.
On retrouve la comparaison avec Nicolas Sarkozy, vous êtes d'accord?
Je trouve pas du tout, puis je trouve que c'est surtout beaucoup trop tôt pour en juger, puisque l'hyper-présidence de Sarkozy, c'était sur ses actes, c'était pas sur des symboles. C'était sur la manière dont il traitait en direct quand même tous les dossiers. Et d'ailleurs, ses conseillers à l'Élysée étaient le vrai gouvernement. En fait, c'est ce qu'on disait beaucoup à l'époque. Pour l'instant, on ne sait pas encore. L'action n'a pas commencé de cette équipe-là. Demain, quand le président de la République va parler devant le Parlement réuni en congrès, ça sera encore de l'ordre de la parole, du programme, du projet. Et on ne sait pas du tout comment il va articuler, ne serait-ce que le discours que prononcera le lendemain le Premier ministre, et puis surtout la manière dont ils vont travailler ensemble. Donc moi, je serais le premier à être d'accord avec vous, Alix, si c'est le cas, s'il concentre tous les pouvoirs, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Si on s'en tient à ce qu'il a dit, il va faire son job, c'est-à-dire de donner les grandes ambitions de son quinquennat, et c'est bien ce qu'on attend de lui. Et il va laisser Édouard Philippe, le lendemain, exposer la manière dont il va mettre en œuvre cette politique. Moi, ça me choque, mais vraiment pas du tout.
François Hernenven,
même si c'est nouveau.
C'est pas choquant, c'est prévu par la Constitution.
Depuis 2008, donc, et la réforme engagée par Nicolas Sarkozy, comme le rappelait Alix
Bouillaguet. Les deux précédents présidents avaient eu recours à cette expression devant le Congrès.
Mais pas pour la même chose.
Non, pas au même moment, pour la même chose.
François Hollande, c'était après les attentats.
Ça inaugure sa présidence. En fait, il envoie un message quand même. On a évoqué tout à l'heure le modèle américain, le discours de l'État de l'Union. Tout ça, c'est bien réel et cette fascination, elle existe chez Emmanuel Macron. Donc, c'est pas vraiment surprenant. Sur le plan des institutions, ça pose un autre problème, indépendamment de la question d'ego avec le Premier ministre, etc. Traditionnellement, dans le fonctionnement des institutions de la Ve République, le Premier ministre est un fusible pour le président. Quand les choses tournent mal, on se débarrasse du Premier ministre. Mais la condition pour que le Premier ministre joue parfaitement ce rôle de fusible, c'est que le président de la République ne s'expose pas trop, n'ait pas la main sur trop de dossiers. Or, il semble, et ça c'est frappant depuis les débuts d'Emmanuel Macron à l'Élysée, que cette préoccupation de tout contrôler, d'avoir tout son regard, y compris la communication, n'est pas rien. Et ça, évidemment, ça posera peut-être des questions quand on s'engagera précisément dans la mise en œuvre du programme présidentiel et quand le Premier ministre donnera l'impression peut-être de travailler aux ordres trop précis de l'Élysée.
Est-ce que c'est risqué, Alexandre Devecchio, pour Emmanuel Macron de concentrer en ses mains, entre ses mains tous les pouvoirs ?
De concentrer tous les pouvoirs, je dirais non, mais de s'afficher les concentrant, oui, la Ve République, et il semblait plutôt l'avoir bien compris, permettait justement au président de la République de ne pas trop s'exposer, d'utiliser le Premier ministre comme un fusible. Il a commencé, on pensait qu'il était dans la lignée de Pilon, qui était le conseiller de François Mitterrand et de Jacques Chirac, et qu'il aurait une présidence extrêmement distanciée. Maintenant, je crois qu'on ne sait plus vraiment. Il est trop tôt, je crois, pour le savoir. On va voir quand on va rentrer dans les dossiers. Il se peut que ce discours-là à Versailles, ce soit aussi dans sa volonté d'incarner le monarque républicain dans un espèce de décor un peu sacré, de continuer sur la séquence sacralisation du pouvoir. Mais ensuite, quand on rentrera dans le vif des dossiers, qu'il se retire. C'est une possibilité. Mais je crois que c'est vraiment un objet hybride, Macron. Il se revendique d'un côté du monarque républicain, de l'autre semble fasciné par le modèle américain. Et je crois qu'il y a aussi une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est celle du super manager qu'on a vu encore ce week-end devant les start-upers. Et je crois qu'il veut imposer les méthodes de l'économie managériale à l'intérieur du gouvernement.
On a parfois l'impression. Et on va en parler d'ailleurs avec ce week-end d'intégration du gouvernement qui avait lieu à Nancy. On va en parler tout à l'heure.
Non, mais il reste qu'il y a un problème à tout faire en même temps. Et pour reprendre l'expression qui lui est chère. Il est à différents endroits à la fois, qui institutionnellement n'incarne pas la définition constitutionnelle de la présidence de la République sous la Ve République.
Oui, en même temps, il utilise un petit peu toutes les ressources qui sont mises à sa disposition. Bien donc, d'une manière naturelle, le régime parlementaire fait qu'il y a une primauté politique au président de la République. Alors, lui, il a quand même un avantage, c'est qu'il prend personne par surprise. Hein. Il l'a annoncé pendant la campagne. D'ailleurs, il l'a fait le Congrès une fois. Il a dit qu'il recommencerait peut-être tous les ans.
C'est vrai que, aux États-Unis.
Que là où il nous surprend, c'est qu'à chaque fois, on pense qu'il n'osera pas, puis il ose. Donc, il devait son mouvement, personne n'y a cru, il a osé. Parler la veille du 14 juillet l'année dernière avant le président de la République, il a osé. Faire l'ouverture à un Premier ministre de droite, il a osé. À chaque fois, il prévient. Alors, il est sympa, mais il va jusqu'au bout.
En tout cas, beaucoup dans l'opposition disent que cette prise de parole d'Emmanuel Macron demain devant le Congrès à Versailles est une humiliation pour son Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi ? On va en parler dans un instant, Laurent Guez, juste après l'info à 20h10 dans Les Informés avec Diane Ferchit.
Les ravisseurs de Sophie Petronin ne sont rien, ce sont des terroristes, des voyous et des assassins. Déclaration d'Emmanuel Macron ce dimanche. Le président de la République est au Mali pour le sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. L'enlèvement de la Française de 72 ans a été revendiqué aujourd'hui par un groupe issu d'une mouvance d'Al-Qaïda. Dans une vidéo, Sophie Petronin apparaît aux côtés de 5 autres otages. Elle a été enlevée en décembre dernier à Gao, dans le nord du Mali. Et lors de sa prise de parole, Emmanuel Macron a promis une aide de la France à ces pays qui luttent contre les groupes djihadistes, une participation à hauteur de 8 millions d'euros avec 70 véhicules tactiques et un appui opérationnel. Le chef de l'État qui demande au G5 Sahel de prouver son efficacité. Les résultats doivent être au rendez-vous pour convaincre nos partenaires, a-t-il affirmé. L'Union européenne a notamment promis 50 millions d'euros pour cette opération. Un contrat de plus de 4 milliards d'euros pour Total. Le groupe pétrolier signera demain cet accord avec l'Iran et deviendra la première compagnie occidentale du secteur à revenir dans le pays. Total va y développer un important champ gazier pour le marché iranien, un contrat d'une durée de 20 ans. Le Tour de France et la victoire de l'Allemand Marcel Kittel. Aujourd'hui, dans la deuxième étape, il a devancé de peu le Français Arnaud Démare. Le sprint se courait entre Düsseldorf et Liège aujourd'hui. Demain, pour la troisième étape, la grande boucle arrive en France. Les cyclistes auront 212 km à parcourir entre Verviers et Longwy.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Simon Le Baron.
C'est d'ordinaire le moment du Premier ministre, le discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Ce sera mardi pour Édouard Philippe, sauf que demain, on l'a dit, c'est Emmanuel Macron, le président, qui va attirer toute la lumière en s'exprimant, lui, devant le Congrès à Versailles. Alors, le Premier ministre est-il humilié, comme le disent beaucoup dans l'opposition? Écoutez ce qu'en pense le chef de file du groupe Les Républicains, dit canal historique à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, sur BFM TV.
Je suis surpris sur la forme, l'intervention du président de la République qui va se faire la veille de celle du Premier ministre. De par la légitimité qui est celle du président de la République, ça va forcément écraser l'intervention du Premier ministre, qui aura beaucoup moins d'existence. Or, dans nos institutions, c'est bien le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre peut-il se sentir son autorité sapée par le président de la République, Laurent Guèze?
Alors bon, c'est le jeu de Christian Jacob d'attiser.
Il n'est pas le plus virulent sur ce sujet.
Non, mais c'est le jeu de l'opposition en tout cas d'attiser et puis peut-être en fait de mettre mal à l'aise son ancien camarade de droite. Sur le fond, comment est-ce qu'on pourrait parler d'humiliation? Mais de quelle fiction on parle? Qui a pensé que la parole du Premier ministre était l'égale de celle du président? Mais enfin, c'est complètement ridicule. Évidemment que c'est le président qui définit tout depuis bien longtemps. Enfin, moi, depuis que j'ai de la mémoire politique, j'ai pas imaginé, sauf dans les périodes de cohabitation, bien sûr, que la politique était conduite à Matignon sans avoir l'ombre du président de la République derrière lui. Donc,
personne ne croit ça, mais
on verra.
Peut-être que oui, mais on parle de symbole. François Yann Edvain.
Moi, je pense qu'ils ont organisé le partage des rôles.
Ça vous paraît plutôt cohérent?
Ben, ça me paraît plus cohérent d'imaginer ce scénario. Simplement, le Premier ministre n'est pas aujourd'hui en situation politique, venu de la droite, de résister à la volonté présidentielle. C'est bien ça qui fait la situation qu'on vit aujourd'hui. Mais je pense qu'intellectuellement, ils sont mis d'accord. C'est cohérent par rapport à la vision de l'exercice du pouvoir, le tempo des réformes que le président de la République et son Premier ministre entendent conduire. C'est un partage des tâches dans une logique entrepreneuriale absolument cohérente.
Alors, sur le rôle du Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, qui va boycotter d'ailleurs avec les députés de la France Insoumise et les communistes ce congrès de Versailles, dit aujourd'hui dans le journal du dimanche qu'Emmanuel Macron franchit un seuil dans la dimension pharaonique de la monarchie présidentielle. Et il dit en substance sur Édouard Philippe qu'ayant quitté son parti Les Républicains, il est seul quasiment aux côtés d'Emmanuel Macron et donc qu'il est à la merci du président de la République.
Ouais. Là, on va dire, Jean-Luc Mélenchon se fait premier opposant de France, donc il pousse le trait jusqu'au bout. On peut se rappeler qu'en 81, le texte, puisqu'à l'époque, c'était des textes qui étaient lus aux deux assemblées, le texte de François Mitterrand a été lu un quart d'heure avant le discours de politique générale du Premier ministre Mauroy à l'époque. Donc, c'est pas plus choquant que ça. Ce qui était peut-être plus choquant, si on se réfère toujours à Nicolas Sarkozy, c'était peut-être la longue interview de Claude Guéant, qui à l'époque était un conseiller du président, qui là, pour le coup, usurpe un petit peu le rôle et puis donc met le Premier ministre en sourdine. Là, finalement, la prééminence du président, elle n'est pas choquante, d'autant que effectivement, visiblement, ils sont bien répartis les rôles. Lui va fixer un cap, parler des réformes institutionnelles, de l'Europe, ce genre de choses. Et Édouard Philippe, lui, sera sur les économies, comment on rentre dans le droit chemin du déficit.
Emmanuel Macron a en tout cas choisi de s'adresser aux parlementaires, donc demain à Versailles, et à travers eux aux Français, plutôt que de le faire à travers l'exercice traditionnel de l'interview du 14 juillet. Il ne la fera pas cette année, Alexandre Devecchio. Est-ce que ça vous paraît préoccupant? Est-ce que ça vous interroge de voir le président de la République vouloir éliminer les relais entre lui et les Français?
Non, moi, ça m'interroge pas. Je suis plutôt gaulliste dans l'âme, donc qui est le moins possible de corps intermédiaire. Je dois dire que ça me choque pas. Par contre, j'ai entendu d'autres journalistes qui, pendant la campagne, voyaient en Macron l'incarnation de la modernité, du centrisme, etc. Là, ne pas s'en indigner. Donc, je note une petite contradiction. Mais oui, chez Macron, il y a la volonté, effectivement, d'éliminer tout ce qu'il y a autour de lui. C'est le Premier ministre, mais pas seulement. Bayrou, c'est les circonstances qui l'ont voulu, mais je pense qu'il a été un peu aidé. Il était finalement l'un des seuls poids lourds politiques dans ce gouvernement, et on s'aperçoit qu'on a un gouvernement de techno, et le Premier ministre est d'autant plus fragilisé, effectivement, que d'habitude, c'est quand même quelqu'un qui est issu de la majorité. Là, il n'est pas issu de la majorité En Marche. On suppose que ses amis de chez Les Républicains vont pas l'accueillir si jamais il est viré à bras ouverts. Donc, il n'y a pas de contrepoids entre le Premier ministre et le Président de la République.
Laurent Guez.
Oui, bah, je pense qu'on a un souci, nous, professionnels, nous, commentateurs, c'est qu'on est face à des situations qui sont très, très inédites. Et c'est d'ailleurs la volonté du président. Et on essaye quand même assez souvent de plaquer ce qu'on connaît, de commenter tout en fonction de ce qu'on a connu avant. Il nous met un vrai challenge, pour parler comme lui. Il nous pousse à réinventer le commentaire. Et je pense quand même que ça sera beaucoup plus aisé lorsqu'il aura agi. Parce que là, on commente des images, et il est assez habile dans ce domaine, mais commenter des images, ça tourne un peu en rond, et d'autant qu'elles sont souvent contradictoires. Comme vous l'avez dit, Alexandre, tout à l'heure, on nous sort Pilan, qui était le chantre de la parole rare, alors qu'on le voit et on l'entend tous les jours. Donc il y a des tas de si on ne s'en tient au signe, bon, on n'a pas grand-chose à dire, on dit une chose et le lendemain son contraire. Attendons de voir comment il va gouverner. Je crois que les Français commencent un peu même à s'impatienter en quelques jours à peine après que le paysage soit stabilisé. Il faut maintenant qu'il gouverne avec son Premier ministre.
François Hernenveil.
Non, je crois qu'il faut pas avoir trop de nostalgie du rituel de l'interview du 14 juillet dont les formes étaient assez figées. Moi, je ne regrette pas ça. Plus généralement, sur la question de la relation avec les journalistes, si le modèle est la présidence américaine, il devrait regarder comment faisait Obama. C'est-à-dire, Obama avait des contacts réguliers avec la presse et une relation, pas de connivence, mais de bonne intelligence avec les journalistes.
Il y avait des conférences de presse
au
cours desquelles il y avait des vraies questions.
Non, mais la culture journalistique aux États-Unis et en France n'est pas exactement la même, mais c'était... Il avait su instaurer des relations avec la presse qui étaient intéressantes. Je suis pas sûr que verrouiller, comme le fait l'équipe actuelle, l'Élysée et Matignon, sera vraiment une bonne chose.
Alors, verrouiller, justement, le séminaire du gouvernement ce week-end, c'était vendredi soir et samedi matin à Nancy, eh bien, ce séminaire, il l'était. Verrouiller, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que c'était simplement un coup de communication? On va en parler dans les informés juste après les dernières infos à 20h20. Diane Ferschit.
13 hectares de végétation partie en fumée cet après-midi dans un incendie près de Perpignan. Le feu est à présent circonscrit. L'incendie s'est déclaré à la mi-journée. Il a démarré sur une propriété privée avant de s'étendre sur une zone proche des habitations, proche également d'une déchetterie et d'une usine. L'usine où 10 000 tonnes de compost fait de copeaux de bois continuent à brûler ce soir. Emmanuel Macron l'affirme, la France restera engagée au Mali aussi longtemps qu'il le faudra pour lutter contre le terrorisme. Le président de la République est à Bamako aujourd'hui en tant qu'invité d'honneur du G5 Sahel. Et il promet des moyens financiers et militaires. La France doit apporter l'équivalent de 8 millions d'euros d'ici la fin de l'année à ce projet avec des véhicules militaires et un appui opérationnel. Le chef de l'État qui a également réagi à cette vidéo postée aujourd'hui par les ravisseurs de Sophie Petronin, la Française septuagénaire enlevée en décembre dernier dans le nord du Mali. Cette vidéo, c'est une première trace de vie de Sophie Petronin. Son enlèvement a été revendiqué par un groupe proche d'Al-Qaïda. L'armée irakienne fait de nouvelles avancées à Mossoul. Ce dimanche, quelques centaines de djihadistes de l'organisation État islamique sont toujours retranchés dans la vieille ville, retranchés au milieu de civils pris au piège. Mais la victoire n'est plus qu'une question de jours selon les forces armées irakiennes. Un mot du Tour de France et victoire de l'Allemand Marcel Kittel dans la deuxième étape de sprint ce dimanche. Une journée à nouveau marquée par des chutes, celles de Christopher Froome et de Romain Bardet. Des chutes heureusement sans gravité.
France Info. 20h-21h, les informés, Simon Le Baron.
Emmanuel Macron, vous le savez, aime les entrepreneurs, il aime les start-upers, il aime ceux qui réussissent, alors il importe en politique les méthodes du privé. Nous parlions dimanche dernier ici même du team building des députés de La République En Marche. Ce week-end, c'était week-end d'intégration pour les ministres, séminaire gouvernemental délocalisé à Nancy, dont tout a été fait pour qu'on sache qu'il existe, mais aussi pour qu'on ne sache pas ce qui s'y était dit. Alors est-ce que ce genre de réunion, tout simplement, Alix Bouyaguez, sert à quelque chose ?
Ça sert, oui, sans doute à quelque chose. C'est toujours mieux de se parler, de se voir, d'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, ce sont pas des politiques pures, hein, pour la plupart dans ce gouvernement. Donc finalement, passer deux jours ensemble, c'est pas mal. Mais effectivement, ça ressemble plus à un petit coup de com, montrer que l'équipe est groupée, qu'elle a un chef, Édouard Philippe, et que tout ça va dans le bon sens. Pour revenir juste sur la communication millimétrée d'Emmanuel Macron et puis de ce gouvernement. C'est vrai que on comprend très bien l'avantage pour Emmanuel Macron de distiller sa parole quand il le souhaite. En revanche, c'est vrai que de notre point de vue, des journalistes, je trouve que c'est un petit peu dommage de pas pouvoir être quand même ceux qui bataillent un peu contre lui. Et c'est vrai que se réfugier derrière sa fameuse pensée complexe.
Mais c'est ce qui était dit. L'exercice du 14 juillet se prêtait mal à la pensée complexe du chef de l'État.
Bon, il va falloir trouver une autre parade la prochaine fois, je pense.
Sur le séminaire gouvernemental à Nancy, les ministres réunis pendant 24 heures, Alexandre Devecchio, quand on nous explique à Matignon que les membres du gouvernement ont été emmenés en Meurthe-et-Moselle pour éviter l'entre-soi du 7e arrondissement de Paris. Ça prête à sourire, franchement.
Oui, je ne pense pas qu'ils vont visiter la Meurthe-et-Moselle. Effectivement, ça prête un peu à sourire. Je parlais tout à l'heure de la dimension managériale de Macron. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de Bonaparte, de Gaulle, etc. Mais il y a aussi du Mark Zuckerberg et du Steve Jobs en lui. Et c'est peut-être un peu plus inquiétant parce que je crois que la France est un vieux pays, pas une start-up, et ceux qui ne sont rien, comme il l'a dit il y a quelque temps.
Juste pour resituer, il rencontrait des start-upers justement dans une ancienne gare. Il disait, ici nous sommes dans une gare, c'est un lieu par essence où l'on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Et cette expression a fait beaucoup réagir.
Oui, c'est une expression qui a fait réagir et pour cause. Et on a l'impression qu'il a effectivement la vision du super manager pour qui il y aurait des super cadres qui réussiraient et les autres seraient des cons. Or, la France est un vieux pays, je le disais, avec une histoire. Et je crois que le président de la République devrait avoir un peu plus le souci du bien commun. Alors, Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Je ne sais pas s'il nous prépare une lutte des classes, mais je crois qu'avant de passer la loi travail, il ferait bien de faire attention avec ces petites phrases comme
François Hollande.
Non, mais ce point est assez important dans l'habillage et le discours du pouvoir. Il faut admettre qu'en France, on peut réussir sa vie en faisant autre chose qu'en créant une start-up. Il y a des tas de métiers qui sont respectables, des gens qui s'engagent dans des professions au service de l'intérêt général, du bien commun, et c'est pas absurde de choisir cette voie-là pour son développement personnel et pour l'intérêt de la nation. Or, cette culture managériale, elle est un peu effrayante. Et d'ailleurs, au moment des élections, c'est la dimension peut-être qui a empêché une adhésion forte à partir d'un désir de renouvellement profond en France vers le projet d'Emmanuel Macron. Il a largement gagné les élections, le processus démocratique a été respecté, mais très franchement, on n'a pas senti, comme à d'autres alternances, à d'autres moments d'histoire politique, une adhésion puissante dans le pays par rapport au projet qui était proposé par Emmanuel Macron. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir ce hiatus, c'est qu'encore une fois, ce discours managérial n'est pas absolument partagé par la majorité des Français.
C'est pour ça qu'on parle de forme, au contraire, Laurent Guez, on parle de symbole, mais ça rejoint aussi le fond, finalement.
Alors quand même, sur cette phrase sur la gare, qui voit passer des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien, c'est une énorme boulette. Je veux dire, c'est une énorme boulette. Il y a une bienveillance à son égard qui fait que elle n'a pas été à ce point, comment dire, elle n'a pas fait autant de dégâts qu'elle aurait pu. Mais là encore, je le redis, hein, on dit que c'est un génie de la communication et on oublie qu'il fait des énormes boulettes. C'est pas la première. Voilà. Après, si on revient sur le séminaire de ce week-end qui était votre question initiale, Simon, moi, je pense quand même que c'est pas du tout un coup de com, parce qu'un coup de com à huis clos, c'est quand même assez étrange. Non, je pense que il y a tout un cheminement qui arrive à cette réunion-là. En fait, il y a un avant et un après. L'après, c'est le discours de politique générale. Et l'avant, c'est tout le processus que les ministres ont dû suivre avec les fameuses feuilles de route qu'ils ont dû rendre à Édouard Philippe quelques jours avant. Et il y a eu la Cour des comptes à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, il a, d'après mes informations, eu un tête-à-tête avec chacun de ses ministres sur leur feuille de route, mais rien de collectif. Et ces gens-là ne se connaissent pas. ne se connaissent pas du tout. Pour la moitié d'entre eux, ils n'ont jamais fait de politique ou en tout cas jamais exercé de grandes responsabilités. Donc, il les a réunis dans un même lieu et il a essayé de passer de ce tête-à-tête qu'il a eu avec chacun à un projet de gouvernement. Donc, honnêtement, bah, je veux bien que tout soit de la com, mais là, je pense qu'il y avait une utilité qui était de s'entendre sur le diagnostic, de voir ce qui se passe avec les finances publiques et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le gouvernement de la France.
Laurent Guez du Parisien Magazine, François Hernenveen de La Croix, Alexandre Devecchio du Figaro et Alix Bouillaguet de France, de vous rester avec nous. Évidemment, les informés continuent. Deuxième partie dans 5 minutes, on parlera notamment de la gauche, de la recomposition de la gauche. Peut-on reconstruire quelque chose sur les ruines du Parti Socialiste? 20h28, restez avec nous sur France Info.
France Info Trafic, avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets, en ligne ou en agence, découvrez notre assurance auto et moto. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Vos conditions de circulation, Johanna Yakin, du classique ce soir, difficultés en région parisienne?
Oui, notamment sur l'A4 en direction de Paris. On a 20 minutes de bouchon avant Collégien à cause d'un accident avec une voie fermée à gauche. On a un autre accident qui pose souci sur l'A6 à Arcueil, toujours direction Paris. Ça explique que vous ayez plus de 20 minutes de bouchon depuis Vissou. Sur l'A1, ça coince aussi un quart d'heure de Saint-Denis à La Chapelle. Et puis sur la Nationale 118, on donne encore quelques coups de frein du Petit Clamart à Sèvres. Là aussi, on perd un bon quart d'heure.
Merci Johanna Yakin, au PC Circulation de France Info.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Un temps calme demain, Jean-Michel Golinski.
Demain, le soleil va largement s'imposer autour de la Méditerranée, également sur l'Auvergne et en Rhône-Alpes à partir de la mi-journée, et on notera un mistral et une tramontane en légère perte de vitesse. Ailleurs, il faudra passer par une matinée assez grise, parfois humide, entre le centre, le Morvan et l'Argonne, avant une évolution pratiquement partout favorable en seconde partie de journée, sauf près de la Manche, où les éclaircies seront assez timides l'après-midi et le vent de sud-ouest turbulent dans le détroit du Pas-de-Calais. Les températures stationnaires le matin vont en journée grimper plus haut qu'aujourd'hui, jusqu'à 22 degrés près de la Manche, 32 à Marseille et à Nîmes, 30 à Perpignan. Il fera 26 à 28 en Rhône-Alpes et dans le quart sud-ouest, et 23 à 25 degrés du nord de la Loire à la frontière allemande.
Merci Jean-Michel Golinski et bonne soirée à vous sur France Info. Les informés continuent juste après l'info à 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Maxime Fayol.
Tous les services de l'État sont mobilisés pour retrouver l'otage française au Mali. Sophie Pétronin annonce aujourd'hui du chef de l'État Emmanuel Macron. Une preuve de vie a été envoyée par Al-Qaïda au Mali ce dimanche, une vidéo. Ces gens ne sont rien, ils sont des terroristes, a déclaré le chef de l'État. Emmanuel Macron qui a précisé que la France resterait au Mali le temps qu'il faut. Il souhaite toutefois que les pays de la région soient aussi mobilisés et prévoit notamment la création d'une force régionale au Sahel avec les pays du G5 réunis aujourd'hui à Bamako. Le gouvernement de son côté fait bloc derrière la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mise en cause pour délit de favoritisme, épinglée à nouveau par le journal du dimanche aujourd'hui. La ministre n'est en aucun cas fragilisée, estime le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Muriel Pénicaud, soupçonnée d'avoir organisé un voyage d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'Économie à Las Vegas avec sa société Business France, un voyage organisé à l'époque sans appel d'offres. C'est un nouveau tweet qui fait polémique de la part du président américain Donald Trump et une nouvelle attaque contre les médias. Trump publie une vidéo où on le voit frapper un homme dont la tête est remplacée par le logo de la chaîne CNN. Il s'agit d'une ancienne vidéo détournée par Donald Trump. CNN dénonce un président qui encourage la violence envers les journalistes. Le tweet a en tout cas été relayé près de 150 000 fois. Le président des Restos du Cœur écœuré ce soir. Un local de l'association a été saccagé à Marseille. Toute la nourriture pour près de 200 familles a été dérobée. Les frigos, les fours à micro-ondes également ont été volés. Le local sera fermé tout l'été pour la reconstruction. La deuxième étape du Tour de France s'est réglée au sprint. Aujourd'hui, c'est l'Allemand Marcel Kittel qui s'est imposé pour la 10e fois de sa carrière sur le Tour. Kittel devance le Français Arnaud Démare. Une étape à nouveau marquée par des conditions météo très défavorables et beaucoup de pluie. La chaussée mouillée a causé une chute du peloton à 30 km de l'arrivée, chute qui a emporté Chris Froome ou encore Romain Bardet. Le directeur sportif du Français, Vincent Lavenu, nous explique les circonstances de la chute.
C'est les aménagements routiers, la pluie qui a fait que ça a généré cette chute. Le peloton commençait à être en stress parce qu'on sentait que l'allure s'accélérait pour essayer de revenir sur les hommes de tête. Et finalement, bon, ouais, ce n'est pas passé, hein. On se doutait. On sentait bien que ça allait au tas et c'est allé au tas. C'est tombé très tôt dans le peloton, vraiment devant, puisque les équipiers de Froome sont tombés en premier. Voilà, bon, c'est vrai que ça a touché le premier et le deuxième du Tour de France l'année dernière. Romain est touché au dos. C'est difficile de dire si c'est sérieux ou pas. Je suis quand même pas trop pessimiste pour le futur.
Le directeur sportif du Français Romain Bardet, Vincent Lavenu. Demain, troisième étape entre Verviers et Longwy pour le Tour de France. 20h33 sur France Info. La suite des informés, Simon Lebas.
Les informés, Simon Le Baron.
Et nous sommes toujours avec François Hernenvein, rédacteur en chef à La Croix, Laurent Guèze, directeur de la rédaction du Parisien Magazine, Alexandre Devecchio du Figaro et de Figaro Vox, et Alix Bouillaguet, rédactrice en chef de l'émission politique sur France 2. Socialisme, théorie visant à transformer l'organisation sociale dans un but de justice entre les hommes au plan du travail, de la rétribution, de l'éducation ou du logement. Voilà la définition donnée par l'encyclopédie Larousse en ligne. On se demande s'il faut la mettre au passé. En tout cas, le parti socialiste, lui, appartient sans doute plus à l'histoire qu'à l'avenir. L'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon s'en va, il l'a annoncé hier lors du lancement de son mouvement avec Manuel Valls. Ce sont donc les deux finalistes de la primaire de la Belle Alliance Populaire, comme on l'appelait à l'époque, on l'a presque oublié, qui ont quitté le PS. Et ils ne sont pas les seuls. Que vous inspire, Alix Bouillaguet, ce spectacle de décomposition ?
Bon, on va dire que le Parti socialiste aujourd'hui est un petit peu en état de mort clinique, hein, mais le patient, le cœur bat encore. Je m'interroge sur la stratégie de Benoît Hamon, qui alors effectivement a sans doute du ressentiment vis-à-vis de la famille socialiste, vis-à-vis de tous ces élus qui ne l'ont pas aidé, hein, qui ont même été des boulets pour lui pendant la campagne. Donc je peux comprendre une espèce d'état de défiance. En revanche, je m'interroge beaucoup sur le fait que Benoît Hamon n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire il n'a pas tiré non plus les conséquences de son propre échec à la présidentielle, et que je pense que le saut qu'il fait aujourd'hui, en créant ce mouvement du 1er juillet, est quand même un saut un peu aléatoire, c'est-à-dire que aujourd'hui le premier opposant de France, ça reste quand même plutôt Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est extrêmement identifié, on voit les valeurs qu'il prône. Benoît Hamon, ok, il y a le volet écologique, mais on a un petit peu du mal à voir où il se situe. Et je pense que s'éloigner du Parti socialiste pour lui, c'est une petite prise de risque.
François Hernenvein.
Bon, c'est assez ironique, cette prétention à dépasser les partis. En fait, c'est les partis qui sont dépassés, tels qu'ils s'organisent à gauche maintenant. On voit bien l'incapacité et la division qui empêchent la gauche de se structurer et d'exister politiquement dans le débat. Elle s'exprime, mais on ne l'entend pas. Elle n'a pas d'écho dans l'opinion, elle ne rencontre pas d'adhésion formidable. Aujourd'hui, je pense que les responsables de ces différents mouvements devront se poser la question de comment ils en sont arrivés là, parce que derrière tout ça, il y a une sensibilité dans le pays qui n'a plus aujourd'hui véritablement de représentation. Jean-Luc Mélenchon essaye d'occuper le terrain, mais sur un mode qui ne correspond pas à la tradition de la gauche de gouvernement.
Je rappelais tout à l'heure la définition du socialisme. Est-ce que quelqu'un porte encore cet idéal aujourd'hui en France ? Qui porte cet idéal ? Jean-Luc Mélenchon, Laurent Guèze ?
Je ne sais pas. Je trouve ça très intéressant d'avoir rappelé la définition. Il y en aura sans doute, il y en aurait d'autres. Mais notamment autour de la justice sociale. En fait, cet éclatement de la gauche est peut-être indispensable. On n'est plus d'accord à gauche sur qu'est-ce que c'est que la justice sociale. Les solutions pour être plus juste sont une chose ou sont opposées. On va parler peut-être tout à l'heure de la réforme du Code du travail. Mm-hmm. Ceux qui pensent, comme Jean-Luc Mélenchon, que la justice sociale, c'est de protéger par un droit très contraignant la situation du salarié, Et en face, ceux qui pensent que pour protéger l'emploi, c'est-à-dire les droits réels, pas les droits formels, comme on devait dire, il faut au contraire simplifier le code du travail pour encourager les employeurs. Donc on a le même souci, c'est-à-dire favoriser l'emploi et des solutions qui sont absolument aux antipodes, avec toujours cette idée de justice sociale. Donc aujourd'hui,
Sûr que si vous dites à Jean-Luc Mélenchon que le gouvernement veut favoriser la justice sociale aujourd'hui, il soit tout à fait d'accord.
Il sera pas du tout d'accord, et pourtant c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que ceux qui veulent simplifier le code du travail ne font pas ça pour augmenter les dividendes, comme on dit par caricature, du patronat. Ils ont fait le diagnostic qu'on peut peut-être contrarier ou contredire, que ceux qui coince sur le marché du travail, c'est la contrainte.
Enfin, on pourra peut-être avoir un débat sur cette question. Il n'est pas franchement incompatible, si on parle du code du travail, de conduire une réforme qui assouplisse le marché du travail, parce que effectivement, c'est une nécessité en France, et nos voisins, nos partenaires européens, nous demandent de faire des efforts en ce sens. On peut avoir cet objectif d'assouplir en ayant présent à l'esprit toujours l'équité, c'est-à-dire que ça ne soit pas toujours sur les mêmes que porte l'effort. Or, cette tension, dans ce qu'on a vu des intentions du gouvernement, ce souci d'équité n'est pas franchement...
C'est pas ce que je voulais dire, François, puisque je parlais à l'intérieur de la gauche. Là, vous parlez du gouvernement qui est ni droite, ni gauche, ou est de droite et de gauche. Non, mais à l'intérieur de la gauche, si vous prenez Manuel Valls, dans son temps, il était pour... ou Madame El Khomri, qui était de gauche, clairement de gauche, elle pensait ça.
Mais donc, la réforme qui conduisait...
de la famille de la gauche, il y avait deux solutions opposées.
La réforme qui conduisait n'était pas guidée par le souci d'équité.
C'est votre jugement. L'autre
jugement,
c'est de considérer que le monde a changé, la mondialisation n'existait pas au temps où la gauche c'était quelque chose de simple vis-à-vis de la droite.
Mais si le monde change, la question de l'équité ne disparaît pas.
Et justement, il y a des réformes du Code du travail qui peuvent être de gauche ou de droite.
On parlera tout à l'heure de la réforme du Code du travail et des soupçons également qui visent la ministre qui porte cette réforme, la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Mais pour revenir au socialisme, Alexandre Devecchio, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui pour cet idéal politique en France ?
D'abord, je crois que le Parti Socialiste, en tant que parti, n'était plus qu'un syndicat d'élus qui tenait parce qu'il pouvait encore distribuer des postes. Aujourd'hui, vu ses résultats aux élections, c'est plus le cas et donc il explose définitivement. Ensuite, je crois qu'on est quand même dans une grande transformation idéologique due à une grande transformation du monde également. Il y a le camp des libéraux, finalement, qu'Emmanuel Macron a réussi à réunifier, aussi bien les libéraux de gauche que les libéraux de droite, favorables à toujours plus de mondialisation, favorables à l'Europe. Et en face, il y a pour l'instant un archipel des refus, de gens qui trouvent que le meilleur des mondes mondialisés n'est peut-être pas le meilleur, justement, et qu'il y aurait peut-être un modèle alternatif, mais cet archipel des refus n'arrive pas à faire une opposition crédible. C'était la France du non qui était majoritaire en 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel, mais quand il s'agit d'en faire un parti, c'est explosé. Donc je crois pas que Jean-Luc Mélenchon, même si aujourd'hui ça arrange Emmanuel Macron d'avoir Jean-Luc Mélenchon comme opposant principal, puisse répondre à ça, puisqu'il a une vision essentiellement marxiste. Alors, je crois que les gens demandent de la protection en matière sociale et économique, c'est certain, mais il y a également la question des valeurs, les questions culturelles, les questions d'immigration, d'identité, et celui ou celle qui pourra, à mon avis, incarner l'opposition, c'est celui qui pourra répondre à ces deux soucis de protection qu'ont les Français.
20h41, tiens, dans les informés de France Info, on fait le tour des dernières infos avec Diane Ferchit.
Un groupe de la mouvance proche d'Al-Qaïda a revendiqué aujourd'hui l'enlèvement de la Française Sophie Petronin. Une vidéo a été rendue publique. On y voit la septuagénaire aux côtés de 5 autres otages. Elle a été enlevée fin 2016 dans le nord du Mali. Pour Emmanuel Macron, ses ravisseurs ne sont que des terroristes, des voyous et des assassins. Nous mettrons toute notre énergie à les éradiquer, a-t-il dit. Tous les services de l'État sont mobilisés pour la retrouver. Le chef de l'État, qui était à Bamako pour le G5 Sahel, aujourd'hui, il a promis une aide financière et militaire afin de combattre les groupes djihadistes terroristes. L'équivalent de 8 millions d'euros devrait être consacré à ce projet d'ici la fin de l'année. Un local des Restos du Cœur de Marseille saccagé. Il abritait des denrées destinées à des centaines de bénéficiaires. Les réfrigérateurs et les fours à micro-ondes du local ont été volés, ainsi que toute la nourriture qui aurait permis à 200 familles de vivre pendant 2 semaines. Le local devra rester fermé tout l'été. La déconvenue des passagers d'un TGV Paris-Toulouse aujourd'hui, alors que la LGV entre Paris et Bordeaux a été inaugurée hier. Leur train a eu 5 heures de retard. Les voyageurs ont donc mis 9 heures pour rejoindre la ville rose, alors qu'ils auraient dû mettre 4h20 en cause un train intercité qui est tombé en panne près d'Agen. L'Allemand Marcel Kittel a remporté cet après-midi la 2e étape du Tour de France à Liège. Il est arrivé devant le Français Arnaud Démare et un autre Allemand, André Greipel. Le Britannique Geraint Thomas conserve quant à lui le maillot jaune.
France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Le mouvement du 1er juillet, voilà le nom de ce mouvement lancé hier par l'ancien candidat du PS à la présidentielle, Benoît Hamon. On parle de la recomposition, de la reconstruction de la gauche, c'est le terme, tant elle paraît en ruine aujourd'hui, Alix Bouyaguet, en tout cas du côté du Parti Socialiste. Est-ce que Benoît Hamon peut être une figure de proue, l'un des moteurs de cette reconstruction?
J'imagine que toute l'opération, c'est de récupérer le courant, le Parti Socialiste derrière lui. Alors je vois qu'il y a ici ou là 2-3 personnes. J'ai vu Madame Bertinotti,
l'ancienne ministre chargée de la famille. Oui.
Après, il y a un peu le père fouettard Stéphane Le Foll qui a quand même rappelé les ouailles à l'ordre.
Oui, sur France Info, il a dit aujourd'hui je souhaite une refondation, peut-être
une
avec
refondation,
un changement de nom du PS.
Et puis ce sera pas l'un et l'autre. Hein. Voilà. Ce sera soit on reste au Parti Socialiste, soit on va vers ce mouvement du 1er juillet. Le problème aujourd'hui, je pense, pour le Parti Socialiste, c'est qu'un parti, souvent, ça a une culture du chef. En général, beaucoup plus sur les partis de droite, mais le Parti Socialiste, il n'échappe pas à la règle. Et aujourd'hui, quand on regarde, effectivement, dans le paysage, on ne voit pas trop le chef émerger. Alors, la semaine prochaine, il y aura des annonces sur... présidence collégiale. Je pense notamment que Najat Vallaud-Belkacem pourrait en faire partie. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas le sauveur. Alors Benoît Hamon, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il pourra réussir ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire unifier les socialistes quand même derrière lui?
Alors ce qu'il n'a pas réussi à faire, on s'en souvient aussi, c'est de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon pendant cette campagne présidentielle. Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon invite tous ceux qu'il souhaite à travailler avec lui autour de son programme L'Avenir en commun. Est-ce que ce rapprochement Hamon-Mélenchon peut se faire maintenant, François Hollenwein?
On mesure mal le niveau de tension, et d'ailleurs dans l'interview que vous citiez, Jean-Luc Mélenchon rappelait aussi que le PS, les Verts et d'autres étaient responsables...
Ont bloqué la percée de la France insoumise, ce sont ces mots.
Voilà, donc ont empêché l'explosion ou l'ascension irrésistible de Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit à travers ses propos qu'on n'est pas proche du formidable Embrassons-nous Folleville que certains souhaitent, mais qui paraît absolument illusoire compte tenu des personnalités et, encore une fois, d'un certain nombre de divergences. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas exactement la même vision de la politique, du niveau de discours où se situe l'argumentation, etc. C'est mélanger l'eau et le feu, là.
Alexandre Devecchio, vous êtes d'accord?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je vois pas très bien quel peut être l'espace de Benoît Hamon ni du Parti Socialiste aujourd'hui. Je le disais, c'est une recomposition majeure. Je suis plus sûr qu'on puisse parler de clivage droite-gauche. Donc, qu'il y ait une aspiration sociale, c'est certain. Est-ce que ça doit s'appeler Parti Socialiste? Est-ce que ça doit se faire avec des gens qui ont déjà échoué, qui ont déjà été remerciés par les électeurs? Je ne crois pas. Je crois aussi ce que montre finalement Emmanuel Macron, c'est qu'on est aussi dans une ère liquide, où les leaders s'appuient pas forcément sur des mouvements enracinés depuis très longtemps dans le paysage politique. Et je pense que d'ailleurs, la droite va devoir s'en inquiéter, puisque après la destruction du Parti Socialiste, les Républicains ne sont pas très bien en point. Et s'ils n'arrivent pas à s'adresser justement à cet électorat populaire qui s'est abstenu à 60% aux législatives, ils risquent de disparaître comme les socialistes.
Même si pour l'instant le groupe, le canal historique des Républicains reste relativement important, beaucoup moins qu'avant, mais tout de même à l'Assemblée nationale, contrairement au PS, qui ne s'appelle même plus PS d'ailleurs à l'Assemblée, mais Nouvelle Gauche, et qui compte une trentaine de députés. Laurent Guay, ça veut dire que même si effectivement la recomposition a été engagée par Emmanuel Macron, la France penche à droite politiquement?
Ben, il y a quelque chose de nouveau, donc là encore, on sort les anciens mots. Moi, je vois, j'ai entendu...
La grille de lecture n'est pas la bonne, pour vous, si j'ai bien compris.
Je pense qu'il y a une partie de ce qui était les bataillons socialistes qui sont dans la République En Marche, clairement. Oui. Donc, on a un objet nouveau, là, et qui inclut des morceaux du monde ancien. À propos de monde ancien, Benoît Hamon, en annonçant son mouvement du 1er juillet, a dit... À propos donc de la victoire d'Emmanuel Macron, le vieux monde a gagné. Et je trouve cette phrase extraordinaire d'ironie. C'est-à-dire que imaginez que lui ou Jean-Luc Mélenchon, c'est le monde moderne, d'avant-garde, nouveau, etc. Et que ceux qui ont gagné, c'est le vieux monde. Honnêtement, je fais pas de dessin, mais ça me fait presque
pourquoi
marrer.
Pas. Moi, je trouve que la formule est
intelligente
de Benoît Hamon, puisque finalement, ce que propose quand même Emmanuel Macron, c'est ce que proposent les majorités en place, qu'elles soient de droite ou de gauche, depuis des années. D'ailleurs, il dit en même temps, et dès qu'il est et de droite et de gauche, et jusqu'ici, depuis 40 ans,
et ça, c'est ancien.
Ça échoue. Donc, c'est pour moi, c'est quand même ancien. On verra à l'avenir. Je peux me tromper. Si Emmanuel Macron réussit, on verra.
Mais l'évolution aussi du
son logiciel libéral et européen.
Mélenchon comme le monde d'avant-garde.
Non, je défends pas Mélenchon. Mais je dis simplement que là, faut se méfier de la modernité d'Emmanuel Macron, que ce qu'il propose est pas tellement nouveau. Vous l'avez dit vous-même, dans En Marche, il y a quand même une grande partie du vieux monde, qu'il soit à droite ou
qui
à gauche. Donc c'est un logiciel, social libéral, qui pour l'instant échoue et qui conduit à faire que 60% des Français sont résignés et ne vont plus voter.
Mais
donc je crois qu'il faut relativiser
l'entrée
dans le nouveau monde.
Je ne crois pas, Alexandre, que ce qui est tenté en ce moment ait déjà été mis en œuvre
non,
en France depuis longtemps.
François Hernenvein.
Je ne vous apprendrai pas que pour conduire une politique, il vaut mieux avoir des soutiens dans le pays, c'est-à-dire une adhésion au projet qu'on porte.
Il m'a semblé qu'il avait gagné largement, peut-être que c'est pas assez.
Mais dans les conditions qu'on sait aussi.
Vous connaissez en tout cas les deux priorités du début de mandat d'Emmanuel Macron. Un, la moralisation de la vie publique. Deux, la réforme du code du travail. Ça marche aussi dans l'autre sens. Sauf que François Bayrou, qui était censé porter le point 1, n'est resté qu'un mois au ministère de la Justice. Et que Muriel Pénicaud, qui défend le point 2, est... peut-être déjà fragilisé au ministère du Travail, puisque le JDD publie aujourd'hui un mail qui semble prouver qu'elle était, lorsqu'elle était directrice de l'agence publique Business France, au courant des problèmes budgétaires posés par l'organisation d'une soirée à Las Vegas. C'était début 2016, soirée de start-upers réunis autour d'Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, et déjà en pré-campagne. Une enquête est en cours pour violation présumée des règles de mise en concurrence. Muriel Pénicaud a toujours assuré qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'il s'agissait d'une erreur de procédure. Est-ce qu'elle est affaiblie, Alix Bouyaguet, par ces révélations?
À l'évidence, oui. Enfin, je vais pas rentrer sur le fond du dossier, mais ce mail qui explique que Muriel Pénicaud a été briefée, donc avait connaissance des éléments sur cette affaire de financement de soirée. Après, la justice va faire son enquête et son œuvre. Mais c'est vrai qu'après l'affaire Ferrand, après l'affaire Bayrou, après pour un gouvernement qui se voulait exemplaire, pour un gouvernement dont je vous rappelle, on a pris 3 jours pour nommer chaque personne en disant qu'on faisait des énormes enquêtes de traçabilité pour que justement on échappe à ça et aux polémiques. Bon, ben là, c'est vrai que c'est un petit raté. C'est quand même ce projet de loi, la réforme majeure, une des réformes majeures d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'effectivement, elle est quand même en difficulté pour pouvoir la porter. Alors, je crois qu'il y a 48 rendez-vous avec les syndicats. Ils en sont au 18e. On va voir jusqu'où ça va.
La ministre du Travail est-elle affaiblie à travers elle? La réforme du Code du Travail a-t-elle du plomb dans l'aile? On continue d'en parler dans les informés à 20h51, juste après les dernières infos avec Diane.
Le Tour de France est la deuxième étape aujourd'hui remportée par l'Allemand Marcel Kittel. Il a devancé de peu le Français Arnaud Démare. Le sprint se courait entre Düsseldorf et Liège. Demain pour la troisième étape, la grande boucle arrive en France. Les cyclistes auront 212 km à parcourir entre Verviers et Longwy. Le maillot jaune reste sur les épaules du Britannique Geraint Thomas. Emmanuel Macron promet une aide de la France au G5 Sahel, ces pays qui luttent contre les groupes djihadistes dans la région. Une participation à hauteur de 8 millions d'euros avec 70 véhicules tactiques et un appui opérationnel. La France restera au Mali tant qu'il le faudra, a affirmé le chef de l'État. Le président de la République a également réagi après la publication d'une vidéo dans laquelle apparaît l'otage Sophie Pétronin. C'est le premier signe de vie que l'on a d'elle depuis sa disparition dans le nord du Mali en décembre dernier. L'enlèvement de la Française de 72 ans a été revendiqué aujourd'hui par un groupe issu d'Al-Qaïda. Au moins 18 morts à Damas dans un attentat suicide. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis des mois dans la capitale syrienne. Trois voitures piégées ont été prises en chasse ce matin par les autorités. Deux d'entre elles ont pu être interceptées, mais le conducteur de la troisième est parvenu à faire exploser son véhicule. Le feu est ce soir circonscrit près de Perpignan. L'incendie s'est déclaré à la mi-journée. Il a démarré sur une propriété privée avant de s'étendre sur une zone proche des habitations, zone proche également d'une déchetterie et d'une usine. Usine où 10 000 tonnes de compost fait de copeaux de bois continuent à brûler ce soir. 13 hectares de végétation sont partis en fumée.
France Info.
20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
On va réécouter ce que disait le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner aux journalistes au sujet des soupçons qui visent la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Écoutez Christophe Castaner, c'était mercredi.
Muriel Pénicaud n'a pas contesté l'irrégularité et elle a réagi en provoquant un audit puis une inspection générale. Maintenant, il y a une enquête. Cette enquête doit permettre d'y voir clair. Je nous invite à attendre les résultats de l'enquête avant de montrer du doigt tel ou tel qui serait en responsabilité. Et je vous invite même à ne pas chercher à affaiblir, et ce n'est pas le cas de votre question, à ne pas chercher à affaiblir tel ou quel, parce que vous avez raison, on est dans un moment important pour la ministre du Travail.
La ministre du Travail affaiblie donc sans doute par ces nouvelles révélations du journal du dimanche, François Hernenwein. Si elle est affaiblie, la réforme du Code du Travail l'est-elle également?
Moi je pense absolument pas que la situation de Muriel Pénicaud pèsera lourdement sur l'avenir de la réforme. L'avenir de la réforme est contenu dans le projet qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais quand on connaîtra le détail du projet, selon une sensibilité ou une attention aux questions d'équité et de justice sociale, c'est là que se jouera l'avenir de la réforme. Je suis convaincu qu'il faut assouplir le marché du travail, mais je pense qu'on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition, et surtout pas en faisant un coup coupé-collé des revendications du MEDEF dans le projet.
La ministre a tout de même mené les discussions depuis plusieurs semaines avec les partenaires sociaux. Laurent Guez, si elle s'en va, il ne faudra pas repartir de zéro, mais ce serait un coup d'arrêt pour ce projet dans lequel le gouvernement veut aller très vite.
Juste avant de répondre à ça, Simon, est-ce qu'elle doit partir?
Cette peut-être affaire, un peu vite en besogne, mais...
Un petit peu, mais cette affaire juste...
Alice Bouilleguet le sort de Richard Ferrand, celui de François Bayrou, de Maria de Sarnez.
Elle va peut-être subir le même sort, mais juste, c'est intéressant de voir quand même ce qui lui est reproché, parce qu'on a là affaire à quelqu'un qui était donc directrice d'une administration.
Une agence publique.
Une agence publique, pardon, rattachée à la fois au Quai d'Orsay et à Bercy. Et elle a un ordre qui lui est donné par le cabinet du ministre, aujourd'hui président de la République. Donc la responsabilité, elle est quand même plutôt dans ce cabinet du ministère de l'économie à l'époque. Et qu'est-ce qu'on lui demande d'organiser à grande vitesse une grande soirée qui coûte cher, etc. Et on demande aussi, probablement dans la vraie vie c'est comme ça que ça se passe, de bosser avec telle agence, parce que le ministre a l'habitude de travailler,
en l'occurrence
Havas, parce que le ministre a l'habitude de travailler avec Havas. Or, normalement, il faut mettre en concurrence, faire un appel d'offres. C'est tout à fait incompatible avec la demande du ministre, puisque le CES, Las Vegas, le fameux salon qui se déroule aux États-Unis à ce moment-là, il arrive à grands pas, et si on compte la mise en concurrence, l'appel d'offres et tout, il faut sans doute 6-8 semaines, on n'est pas dans les clous, c'est mort. Alors, est-ce qu'elle dit non? Est-ce que la directrice d'une agence publique peut dire non au cabinet? Dire non, moi je peux pas, ce n'est pas légal. Peut-être qu'elle aurait dû le faire, et elle serait pas dans cette situation aujourd'hui. Mais ça se passe rarement comme ça. Le ministère de tutelle, c'est lui qui décide. Alors là encore, après, dernière question subsidiaire, est-ce que la réglementation, qui est très bien inspirée, puisque c'est pour éviter le favoritisme ou des magouilles, est-ce que elle est parfaite? Est-ce qu'elle marche si bien? Parce que finalement, on a reproché la même chose au président Sarkozy, lorsqu'il avait fait faire des sondages auprès de l'institut qu'il avait choisi sans mise en concurrence. C'était en l'occurrence l'institut de Pierre Giacometti. Mais est-ce que le président de l'époque aurait dû changer d'institut, travailler avec CSA ou avec IFOP, parce que la loi demande une mise en concurrence? Non, lui, il voulait travailler avec celui-là. Donc on est quand même dans une situation, et je veux absoudre personne, hein, mais je veux juste qu'on prenne conscience des choses, où si un décideur qui a été élu veut travailler avec quelqu'un, eh bien, c'est... la règle sur les marchés publics l'invite à une
c'est
mise
justement
en concurrence.
Ce genre de pratique qu'Emmanuel Macron avait promis de mettre fin. Enfin,
c'est bien parce qu'il pointe du doigt les pratiques, mais pas les dérives auxquelles elles peuvent conduire. S'il y a un appel d'offres, c'est bien pour que justement un décideur politique ne décide pas de travailler avec telle ou telle boîte qui par la suite pourrait rendre tel ou tel
vous
service.
Vous croyez que Sarkozy aurait voulu travailler avec
plutôt
sans avec
doute, l'IFOP. Moi je suis impartial et ça pose problème, effectivement. Ça pose problème et tout ça pose singulièrement le problème des relations entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et Emmanuel Macron en est le produit le plus pur. Donc à mon avis, plutôt qu'une loi de la moralisation de la vie politique, il aurait fallu une loi de l'indépendance économique de nos politiques. Et ça, c'est l'angle mort de la loi de moralisation.
Vous employez des grands mots, c'est avec qui je bosse.
Non, c'est pas avec qui je bosse, mais
c'est pas si j'ai payé sur facturé.
Un appel d'offres, ça sert d'abord à rémunérer la personne, c'est le contribuable qui paye.
Bien sûr.
Donc il faut faire attention. Et ensuite, on peut choisir de bosser avec les uns ou les autres pour avoir des services en retour.
On peut
pas être naïf non plus.
Merci à tous. Alexandre Devecchio du Figaro et du Figaro Vox, Alix Bouyaguet de l'émission Politique sur France 2, François Hernenwein de La Croix et Laurent du Parisien Magazine. Merci d'avoir été les informés de France Info ce soir et merci à vous de nous avoir suivis sur France Info à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT.